Laudetur Jesus Christus.
Une riposte vigoureuse et coordonnée est en cours. Le président congolais a pris la parole hier soir pour condamner la prise de Goma par les rebelles du M23 et les troupes rwandaises. Il a dénoncé aussi l'inaction de la communauté internationale, un affront pour la RDC, a-t-il dit. Pour les Congolais, difficile d'avoir des nouvelles de ce qui se passe à Goma. Internet est coupé, les communications sont très difficiles. D'où une inquiétude encore plus grande concernant le sort des habitants de la ville. Nous entendrons le témoignage d'un frère missionnaire congolais originaire du Nord Kivu, actuellement en étude à Rome. Ce sera dans notre dossier à suivre, bien évidemment, à la fin de ce journal. Comment les réfugiés palestiniens vont-ils pouvoir aller à l'école ou se soigner à Jérusalem-Est et dans le reste des territoires, bande de Gaza et Cisjordanie? C'est la question qui se pose à partir d'aujourd'hui, alors que l'UNRWA doit fermer ses portes selon la loi israélienne. La transition politique en Syrie prend forme. Le chef de HTS, Ahmad El-Sharé, devient président de transition. Les anciennes institutions sont dissoutes. Il devient formellement ainsi le maître absolu du pays. En Allemagne, droite et extrême droite votent ensemble un texte sur la politique migratoire, une première dans l'histoire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas sans provoquer un tollé.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Une offense à notre histoire. C'est ainsi que le président congolais a qualifié la perte de Goma au profit des rebelles du M23, des troupes rwandaises qui les soutiennent. Félix Tshisekedi a pris la parole hier soir pour la première fois depuis que la capitale du Nord Kivu est tombée entre les mains de la rébellion. Il a assuré qu'une riposte vigoureuse est en cours. Les précisions à Kinshasa de Pascal Moulégois.
Aucune déclaration de guerre pour l'instant de Kinshasa contre Kigali, mais le président Félix Tshisekedi a d'abord exprimé un regret face à l'absence des sanctions contraignantes de la communauté internationale et de l'Union africaine contre le Rwanda.
Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûr d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons.
L'option de la résolution de la crise par voie diplomatique et politique n'est pas exclue.
Tout en restant fermement résolu à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires.
Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation et annonce qu'une riposte est en cours. Les dirigeants congolais ne pouvaient se passer des violences ayant visé des chancelleries occidentales mardi à Kinshasa. Des ambassades, notamment de France, Belgique et des États-Unis, ont été victimes de violences quand celle de l'Ouganda a été mise à sac par des manifestants qui disait pourtant dénoncer l'inaction de la communauté internationale.
Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère.
Le président a aussi annoncé des mesures économiques, notamment l'instruction donnée au gouvernement pour la réduction du train de vie des institutions et un appel au secteur privé pour soutenir l'effort de guerre. Pascal Moulégois, Kinshasa, Radio Vatican.
Du point de vue diplomatique, la communauté des États d'Afrique de l'Est exhorte fermement Félix Tshisekedi à parler avec tous les acteurs, dont le M23. Une rencontre avec Paul Kagame était prévue hier à Nairobi, mais le président congolais a décliné l'invitation pour des raisons d'agenda officiellement. Son homologue angolais, qui avait tenté une médiation à la fin de l'année dernière, a lui demandé le retrait immédiat du groupe armé des troupes rwandaises, seule condition selon lui pour organiser un nouveau sommet tripartite. C'est une agence de l'ONU vitale pour des millions de réfugiés palestiniens à travers le Proche-Orient. L'UNRWA cesse officiellement ses activités à partir d'aujourd'hui à Jérusalem-Est, dans la partie occupée depuis 1967, et ce, en vertu d'une loi israélienne. Le gouvernement israélien, depuis le 7 octobre 2023, n'a eu de cesse de désigner cette agence comme une organisation terroriste. Les détails à Jérusalem avec Valérie Ferrand.
La guerre de longue date d'Israël contre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a atteint un niveau sans précédent avec la mise en application aujourd'hui des lois visant à interdire l'UNRWA de continuer sa mission, au moins à Jérusalem. Dans l'immédiat, la menace pèse surtout pour les centres médicaux et les écoles gérées par l'agence dans la partie occupée de Jérusalem depuis 1967. Si tous les employés et enseignants sont censés se rendre à leur travail comme à l'habitude, les forces d'occupation israéliennes pourraient fermer les établissements, laissant des milliers d'écoliers sans cours et les patients privée de soins médicaux. Le QG de l'UNRWA, situé également dans la partie occupée de Jérusalem depuis 1967, doit être définitivement fermé et le personnel international de l'UNRWA obligé de partir, Israël n'ayant pas renouvelé le visa des employés étrangers. La mission de l'UNRWA risque également d'être sérieusement entravée dans le reste de la Cisjordanie ainsi que dans la bande de Gaza, où elle est la colonne vertébrale de tout le système humanitaire. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et concernant la bande de Gaza, 11 otages israéliens doivent être libérés cette semaine, dont 8 aujourd'hui et 3 samedi, parmi eux 5 Thaïlandais. En échange, Israël va libérer dans la journée 110 prisonniers palestiniens, parmi eux 30 mineurs. La transition politique en Syrie prend forme. Hier soir, le dirigeant de facto, Ahmad al-Sharreh, qui a pris le pouvoir le 8 décembre après la chute de Bachar al-Assad, a été nommé président pour la période de transition. Parmi les décisions prises, c'est la dissolution de l'ancien Parlement et le gel de la Constitution. Les détails à Beyrouth avec Paul Khalife. Non. Alors excusez-nous, il y a une petite erreur. Nous allons maintenant aux États-Unis où il y a de la confusion au sujet du gel des aides publiques. Donald Trump avait tout suspendu, nous vous en parlions hier matin. Eh bien, hier, l'Office du budget a annulé les instructions de la Maison-Blanche qui a précisé dans la foulée que le projet initial de l'exécutif restait totalement en vigueur. Il n'en reste pas moins que c'est la justice qui, pour le moment, a le dossier entre les mains. L'opposition démocrate a, elle, profité de l'occasion pour dénoncer l'incompétence en pleine lumière. On retourne donc cette fois en Syrie où, je vous disais donc, le président de transition a décidé donc de dissoudre l'ancien Parlement et le gel de la Constitution. À Beyrouth, Paul Raifé.
Les nouveaux maîtres de Damas ont pratiquement tout dissous en Syrie ce mercredi. L'ancien Parlement, l'armée du régime de Bachar al-Assad et ses services de sécurité, le parti Baas qui a gouverné la Syrie pendant 60 ans et toutes les formations qui se sont alliées à lui. Les groupes armés qui ont combattu le régime, ainsi que les organes civils et militaires de la révolution syrienne sont aussi passés à la guillotine de la dissolution. Avec le gel de la Constitution, Ahmad al-Sharreh devient le seul maître à bord. Nommé président de la transition, il assumera les fonctions de chef de l'État et représentera la Syrie dans les forums internationaux. Avec ses pouvoirs illimités, le nouveau maître de Damas pourra reconstruire la Syrie de demain comme bon lui semble. Sa première décision sera de former un conseil législatif intérimaire, une sorte de parlement non élu qui aura pour tâche de voter une nouvelle constitution et des lois. Ces mesures ont été prises lors d'un congrès regroupant près de 250 chefs de groupes armés et d'organes de la révolution syrienne, dont moins d'un quart étaient des civils. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
C'est une première en Allemagne dans l'histoire de la République fédérale. Un texte a été adopté au Bundestag avec le soutien de l'extrême droite. Un texte qui appelle le gouvernement à durcir la politique migratoire après l'attaque au couteau d'Aschaffenburg de la semaine dernière qui a fait 2 morts poignardés par un réfugié afghan. L'initiative de ce texte vient des démocrates chrétiens et de leur leader Friedrich Merz. En pleine campagne électorale, ce vote soulève un tollé immense. À Berlin, les précisions de Delphine Herbollier.
C'est une journée historique qu'a vécue l'Allemagne hier. Après des décennies de barrages démocratiques au niveau fédéral, la droite classique, chrétienne-démocrate, a fait passer un texte avec le soutien de l'extrême droite. Il s'agit d'une résolution non contraignante qui appelle le gouvernement à modifier entièrement sa politique migratoire. Son adoption marque un tournant dans la tradition politique de la République. Historique, c'est justement le mot qui a été employé par l'extrême droite hier à l'issue de ce vote. Pour l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, le cordon sanitaire imposé autour d'elle est désormais tombé. Ses députés jubilaient hier dans l'hémicycle. Historique, c'est aussi le mot employé par la gauche et par les écologistes, mais dans un sens négatif. Pour le chancelier Olaf Scholz, la droite classique a trahi sa promesse de ne jamais coopérer avec l'extrême droite. Même critique de la part des églises catholiques et protestantes. Hier soir à Berlin, près de 600 personnes ont manifesté devant le siège de la CDU. Les chrétiens démocrates allemands, eux, reprochent au parti classique de ne pas avoir approuvé leur texte est d'avoir laissé l'extrême droite trancher. Une chose est sûre, ils se montraient bien embêtés hier par ce vote et leur chef Friedrich Merz s'est même dit attristé. Reste à voir si cette tactique de pression sur la question migratoire convaincra les électeurs. Ils se rendront aux urnes dans moins de 3 semaines. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
Aux États-Unis, un avion de ligne transportant une soixantaine de passagers et un hélicoptère militaire sont entrés en collision dans la soirée de mercredi à jeudi. Ça s'est passé à Washington. Les deux appareils sont tombés dans le fleuve Potomac. Les opérations de secours sont en cours actuellement pour tenter de retrouver des survivants. Retour dans notre dossier sur Goma que les combattants du mouvement rebelle M23, appuyés par des troupes rwandaises, contrôleraient presque complètement. Difficile en effet de savoir ce qui se passe exactement dans la capitale du Nord Kivu, tant les communications sont difficiles. Les liaisons téléphoniques et internet sont en effet coupées sur place. Dans le reste du pays, comme dans la diaspora, cette incertitude sur ce qui se joue dans la ville accentue un sentiment de peur chez les Congolais ayant de la famille à Goma. Quel sort l'offensive a-t-elle réservé à leurs proches, la plupart tirés chez eux? Étudiant à Rome, le frère Adolphe Mulengezi Mingano, missionnaire de la Consolata, témoigne pour nous de sa préoccupation extrême pour les siens.
Dehors, ça ne va pas. Il y a les rebelles, il y a des tirs de balles, il y a tout, il y a des bombardements. Alors, ils sont enfermés dans leur maison, ils n'ont pas de choix. Ils peuvent pas sortir parce que si vous sortez, vous pouvez vous heurter entre les mains de ces rebelles et puis on vous tue. Mais aussi rester dans la maison enfermée, ils peuvent aussi mourir de faim. Il y a une crise alimentaire parce que la nourriture qui venait souvent des massis, c'est déjà entre les mains des rebelles, ça fait quelques semaines. Alors les gens n'arrivent plus à trouver la nourriture dans la ville de Goma. Donc ils sont enfermés dans des maisons. Ils n'ont pas de soins, ils n'ont pas quoi manger, et il n'y a pas de l'eau potable, l'électricité cause problème, et maintenant la communication. Alors ils sont en train de vivre vraiment une condition inhumaine. Les Congolais souffrent d'une manière insupportable. C'est pourquoi il faut une intervention vraiment rapide pour ce qui concerne aussi la liberté de notre population et du point de vue alimentaire parce qu'ils sont vraiment en pleine crise.
Et ça s'inscrit dans un contexte de crise humanitaire durable. Elle n'affecte plus seulement les déplacés qui sont dans le camp surpeuplé qui se trouve à côté de Goma. On parle plus d'un million de personnes. Mais aussi, elle affecte toute la province et donc Goma qui a en plus accueilli de nouvelles populations de déplacés avec l'assaut du M23.
Les gens se sont déplacés pour courir vers Goma. Goma n'est pas une très très grande ville qui peut accueillir tout le milieu rural, tout ça. Et donc, ça devient un surpeuplement. Et vous pouvez vous imaginer, en arrivant à Goma, c'était la même situation. Alors, les gens se sont demandé, maintenant, nous allons où? Si nous retournons en arrière, il y a le parc, il y a aussi les rebelles partout. À côté de nous, il y a le lac. De l'autre côté, c'est le Rwanda. Nous allons où précisément? Vous allez vous jetez au lac ou comment? Donc la situation n'est pas humaine. Ces gens se sont retrouvés vraiment dans un gouffre. L'urgence, c'est de venir en aide à cette population qui est en train de mourir, sans aide, sans espoir. Et aussi arrêter la guerre. Nous devons protéger notre patrie, nous devons protéger notre bien pour les biens du Congolais lui-même. Ça n'engage pas seulement les Congolais, ça engage tout le monde. Si la communauté internationale aussi intervenait, on peut finir ça.
Mardi notamment à Kinshasa, la capitale, on a vu des mouvements de colère contre des ambassades étrangères. Est-ce que vous comprenez ce sentiment de colère?
Comme être humain, oui. Je ressens vraiment cette colère. Ça fait plus de 30 ans que la République démocratique du Congo, surtout l'Est de la RDC, est en guerre. Moi, je n'avais que 4 ans. Mais plus de 30 ans. Alors, vous pouvez vous imaginer, à mon âge maintenant, grandir dans une situation pareille. Tu es affecté moralement, mais ma colère n'arrive pas à résoudre la situation actuelle. Comme un religieux, la chose plus importante et encourageante, c'est la prière. Ça fait 3 jours que je ne suis pas en contact avec mes propres familiers qui sont à Goma et de l'autre côté. Je prie seulement pour eux, pour qu'ils soient protégés par la main divine là où ils sont et tout le reste de la population. Alors, avec la prière, alors tu as une force intérieure qui te dit il ne faut pas désespérer. La prière aussi nous donne cet élan un peu d'aller en avant.
Interrogé par Marie Duhamel, le frère Adolphe Mulengezi Mingano, missionnaire congolais donc de la Consolata, était étudiant à Rome, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook ou notre compte X. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.